Ok. Bonjour à tous. Donc c'est encore moi qui prêche ce matin. Désolé. Bah parce que je l'ai fait la semaine dernière. Et oui. Et je remplace mon frère Tahar, qui est là. Bienvenue Tahar. Tahar qui est un peu malade. D'accord, qui tousse, hein, c'est pour ça que je le remplace. Et donc, je vais pas faire une parabole ce matin, puisque je remplace Tahar, qui est chargé de sortir du chemin habituel que suivent les autres pour prendre un autre, apporter voilà, un autre éclairage. Donc ce matin, je vais lire avec vous et étudier avec vous un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ça fait longtemps qu'on est dans le Nouveau. De temps en temps, c'est bien de retourner un peu dans l'Ancien. Donc on va lire ensemble deux chapitres dans le livre des Juges. Alors moi, j'aime bien les Juges. C'est des passages qui sont durs, hein. Vous savez que bon, les juges, hein, la dernière fois que j'avais prêché là-dessus, j'avais dit que je trouvais que ça ressemblait un peu à l'atmosphère de Mad Max. Hein. Il y a beaucoup de violence. C'est un peu voilà, pour nos oreilles occidentales et habituées à une société apaisée. Il y a des choses qui sont choquantes. Malgré tout, eh bien, le Seigneur nous se révèle dans ces histoires. Alors là, c'est une histoire. Donc ça concerne Gédéon. On va lire la deuxième partie, on va dire, de la vie de Gédéon. Souvent, on s'attache à la première, où Dieu rencontre Gédéon et le choisit. Là, je vais partir donc juste après l'épisode de la toison. Alors, je vais pas la refaire, mais donc, à un moment donné, Gédéon demande un signe, en fait. Hein, Dieu lui dit, voilà, il faut que tu ailles délivrer mon peuple. Et Gédéon demande un signe. Et donc, il demande le signe de cette toison, donc, qui est mouillée pendant une nuit et qui est sèche pendant l'autre nuit. Donc, voilà. Donc, dans ce passage, on va voir... Bon, Gédéon, c'est un héros de la foi, d'accord? Il est cité dans Hébreux parmi les géants de la foi, en fait, ceux dont la foi a été un exemple et un moteur pour bien les générations qui l'ont suivi. On va voir donc dans ce passage comment Dieu va se servir de Gédéon pour renouveler son peuple, d'accord? Puisque l'histoire des juges, hein, c'est toujours la même qui se répète, d'accord? Dieu appelle son peuple répond, et puis se détourne de lui, et Dieu envoie un homme ou une femme pour le ramener à lui. Et donc, on va voir, eh bien, comment Gédéon va ramener le peuple à Dieu. Et on va voir aussi comment est-ce que cette foi de Gédéon, comment est-ce qu'elle a agi dans sa vie. On verra aussi ses faiblesses à Gédéon, parce que c'est aussi dans ses faiblesses qu'on se reconnaît. D'accord? C'est un géant de la foi, mais comme tous les géants de la foi, dans la Bible en tout cas, eh bien, ils ont tous des fêlures, hein, des failles, des faiblesses. On va voir aussi les conséquences de ces faiblesses. Alors je commence, donc, on va lire le chapitre 7 et 8. Donc on va le découper en deux, on va lire d'abord le premier chapitre et puis ensuite le deuxième. Donc je commence avec Juges, chapitre 7. Et donc je vais le lire dans la traduction du Semeur. Donc le lendemain matin, donc après cet épisode de la toison, donc où Gédéon demande un signe, le lendemain, alors Yérubaal, c'est-à-dire Gédéon, alors Yérubaal parce que dans sa jeunesse, en fait, Gédéon a renversé la statue de Baal. Donc le père de Gédéon l'a défendu en disant, eh bien, il l'a défendu devant ceux qui voulaient tuer Gédéon parce qu'il avait commis un sacrilège. Et donc, son père dit, eh bien, Baal n'a qu'à se défendre lui-même. Et c'est ce que ça veut dire, ça, Yerubal, que Baal se défende. Donc Yerubbaal, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec toutes les troupes, toutes ses troupes, et ils établirent leur camp près de Yin Harod. L'armée des Madianites était campée plus au nord, dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Morée. Alors, juste pour donner un brin de contexte, les Madianites, d'accord, c'est ceux qui, à ce moment-là, oppriment Israël. Donc ce sont des Bédouins, des nomades, hein, qui envahissent le pays. Alors la comparaison faite avec les sauterelles, ils envahissent le pays, ils pillent tout ce qu'il y a à piller, et il reste rien pour les Israélites. L'Éternel dit à Gédéon, « Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler? Qu'il s'éloigne du mont Galaad et rentre chez lui. 22 000 hommes de son armée s'en allèrent et il en resta 10 000. Mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent et je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux que je te dirai qui ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon fit descendre ses hommes au bord du torrent, et l'Éternel lui dit, « Tu mettras d'un côté ceux qui lapent l'eau avec leur langue comme des chiens, et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. » Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau avec leurs mains pour la porter à leur bouche et la laper, et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau entre leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux, que tous les autres rentrent chez eux. Les 300 hommes reçurent des provisions et les corps des autres, et Gédéon renvoya le gros des hommes d'Israël chez eux, en ne retenant que les 300 hommes. Or le camp des Madianites était en dessous du sien dans la vallée. Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, « Va, descends attaquer le camp Madianite, car je le livre en ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur Pourra. Écoute ce qu'ils disent et cela t'encouragera. Tu descendras ensuite attaquer le camp. » Gédéon descendit donc avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la vallée aussi nombreux qu'une nuée de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable au bord de la mer. Gédéon s'approcha et il entendit un homme raconter un rêve à son camarade. « Écoute, disait-il, j'ai fait un rêve. Je voyais une miche de pain d'orge rouler à travers le camp de Madian. Arrivée à la tente, elle l'a frappée de plein fouet, l'a fait tomber et l'a renversée sans dessus-dessous, si bien que la tente était à terre. » Son camarade répondit, « Cela ne représente rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël à qui Dieu a donné la victoire sur Madian et toute l'armée. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il se prosterna. Puis il retourna au camp d'Israël et cria, « Tout le monde debout, car l'Éternel nous donne la victoire sur l'armée de Madian. » Gédéon divisa les 300 hommes en trois groupes, remit à chaque soldat un corps et une cruche vide dans laquelle on mettait une torche allumée. Il leur dit, « Vous me regarderez faire, et vous ferez exactement comme moi. Je vais m'avancer jusqu'au bord du camp. Quand j'y serai arrivé, vous n'aurez qu'à m'imiter. Je sonnerai du corps avec ceux de mon groupe, et vous sonnerez aussi du corps tout autour du camp, et vous crierez, « Pour l'Éternel et pour Gédéon. » Peu avant minuit, Gédéon et les 100 hommes de son groupe arrivèrent aux abords du camp. On venait juste de remplacer les sentinelles. Soudain, ils sonnèrent du corps et cassèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Les trois groupes sonnèrent du corps et cassèrent leurs cruches. De la main gauche, ils brandirent les torches, et de la droite, ils tenaient les corps pour en sonner. Et ils crièrent « À vos épées, pour l'Éternel et pour Gédéon !» Tout en restant chacun à sa place autour du camp. Les hommes dans le camp se mirent à courir, à crier, à se sauver. Les 300 Israélites continuèrent à sonner du cor, et l'Éternel fit que dans tout le camp, chacun tourne son épée contre son compagnon. Finalement, ils s'enfuirent tous à Beth-Shitta, du côté de Tséréa, et jusqu'aux abords de Abel-Méoa, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux des tribus de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé s'unirent et se lancèrent à la poursuite des Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm, pour faire dire aux hommes de descendre afin de couper la retraite aux Madianites, en occupant tous les points d'eau jusqu'à Beth-Béra, et les guets le long du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et occupèrent les points d'eau jusqu'à Beth-Béra et les guets du Jourdain. Ils capturèrent deux chefs madianites appelés Horeb et Zeb. Ils tuèrent le premier au rocher d'Horeb et le second au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent les Madianites et rapportèrent les têtes d'Horeb et de Zeb à Gédéon, qui se trouvait alors à l'est du Jourdain. « dans ce passage, on voit une victoire. D'accord, on voit une victoire pour Israël contre les Madianites. On lira un peu après qu'à ce moment-là, donc ces Madianites qui sont comme le sable de la mer, qui sont comme une nuée de sauterelles, en gros, il y a 150 000 hommes, à peu près. Et donc on voit les Israélites qui se rassemblent, donc il y a plein de tribus différentes qui se sont rassemblées pour combattre, ils sont 30 000. Ils sont 30 000, donc il y a déjà un rapport de 1 sur 5. Et puis, on voit comment est-ce que Dieu va diminuer encore ce nombre, finalement, jusqu'à 300. Et dans tout ça, on voit Gédéon qui est là. Et on voit la façon dont Gédéon va être un chef, un leader pour son peuple. On voit la façon dont il va être capable d'abord de mobiliser tout le monde. Hein. Il appelle les différentes tribus autour de lui et il réussit à les rassembler donc dans ce projet de reconquête de la souveraineté d'Israël. Donc il s'est mobilisé. On voit aussi qu'il arrive à susciter la confiance. Vous vous rendez bien compte que pour que des soldats acceptent de combattre contre 500, d'accord, puisque c'est à peu près la proportion, hein, 300 contre 100, 150 000, donc qu'ils acceptent de combattre, il faut qu'ils aient vraiment confiance dans celui qui les conduit. Et on voit qu'effectivement, ce Gédéon, on le voit dans la façon dont il décrit le combat. Il dit, voilà, je vais aller devant, puis vous allez me suivre, et vous allez faire comme moi. Vous allez m'imiter, vous allez faire comme moi. Donc, Gédéon part devant, c'est lui qui prend les premiers risques, c'est lui qui se met en danger, et qui dit aux autres, faites comme moi. Suivez-moi. On peut retrouver cette façon de faire, par exemple chez Paul, hein, qui va dire, eh bien oui, regardez-moi marcher, et puis faites comme moi. Et le cri de ralliement du peuple, ça va être pour l'Éternel et pour Gédéon. Donc Gédéon va finalement accepter de se mettre en avant. On sait que on le voit dans les débuts de sa vie, c'est quelqu'un de timide, qui a peur. Et pourtant, on voit encore d'ailleurs cette peur dans ce passage-là. D'accord ? Donc Dieu lui a donné plusieurs signes. Plusieurs fois, il lui a montré qu'il était avec lui. Et pourtant, juste avant le combat, Dieu lui dit... Si tu as peur d'y aller, alors, eh bien, va aux abords du camp et écoute, et je te montrerai que je t'ai déjà donné la victoire. Parce que, effectivement, ce que Gédéon va entendre, c'est que Dieu a déjà... Il a déjà... finalement, renversé dans le cœur, dans l'esprit des Madianites, il a déjà donné la victoire à Israël. Parce que les soldats ennemis savent déjà qu'en fait, que Dieu est avec les Israélites. Donc Gédéon, il a peur. Et bon, franchement, alors, c'est vrai que on est habitué à comprendre que... avec Dieu, il n'y a pas de crainte. Vous vous rappelez ce passage quand les disciples sont avec Jésus dans le bateau et qu'il y a la tempête, ils ont peur. Et Jésus leur dit, mais pourquoi vous avez peur? Et où est votre foi? D'accord? Donc, pour nous, la proximité qu'on a avec Dieu bien fait qu'on est appelé à lui faire confiance. Et malgré tout, dans ce passage... on voit que Dieu ne reproche pas à Gédéon sa peur. Bon, franchement, moi, si je devais aller attaquer un camp avec des gens où ils sont 500 fois plus nombreux que ceux qui sont avec moi et que je devais y aller comme ça, bon, franchement, je pense que j'aurais peur aussi. Donc c'est un sentiment, on va dire, complètement humain et normal. Et Dieu va accompagner Gédéon là-dedans. Et ce qui est impressionnant avec Gédéon, c'est que c'est vrai, il a peur. C'est vrai, il a peur. Il a besoin que Dieu le rassure. Seulement, une fois que Dieu lui a montré, Gédéon, il y va. Et il y va à fond. Il se remet complètement entre les mains de Dieu. Parce que c'est exactement ça qui se passe. Hein. Quand ils se mettent tout autour du camp, à 300 contre une multitude, si les Madianites décident à ce moment-là de se rassembler et de foncer, c'est sûr qu'ils sont foutus. Et Gédéon, à partir du moment où Dieu lui a montré que c'était le bon chemin, Gédéon renonce à sa peur, renonce à ses doutes et se remet complètement entre les mains de Dieu. Et si ce Gédéon est un si grand, finalement, conducteur pour Israël, c'est parce que Gédéon, tout au long de sa vie, va écouter Dieu. Il va l'écouter. Alors, dans le passage précédent, en fait, okay, Dieu se révèle à lui à travers un ange, en fait un homme, l'ange de l'Éternel, le Christ, hein. Souvent c'est comme ça qu'on le comprend, donc, qui vient le voir et qui lui parle. Au début, Gédéon, d'ailleurs, ne comprend pas forcément que c'est un envoyé de Dieu, mais c'est comme ça que Dieu se révèle. Là, maintenant, il nous est dit, Dieu dit à Gédéon, alors on ne sait pas comment est-ce que Dieu lui parle à Gédéon, d'accord ? Peut-être par des rêves, peut-être autrement. Bon, malgré tout, ce texte nous dit, voilà, Dieu lui parle, et Gédéon écoute, il agit en conséquence. Et cette foi que Gédéon va avoir, va mettre en son Dieu, il va la transmettre à son peuple. Il va la transmettre à son peuple. À vos épées, pour l'Éternel et pour Gédéon. C'est ça que Gédéon donne à son peuple. Cette confiance renouvelée en Dieu, où le peuple est prêt à remettre sa vie entre les mains de Dieu, parce qu'un homme a accepté d'écouter et d'obéir, malgré sa peur, malgré ses doutes. Donc, c'est pour ça que ce Gédéon est un si grand héros de la foi. Dans ce passage, on voit donc, on voit Dieu se servir de Gédéon, et ce qui est, bon, évidemment particulièrement marquant dans cette description, c'est comment est-ce que Dieu va finalement manifester sa gloire. Parce que, on l'a dit un petit peu en début de ce culte, l'important, c'est pas la victoire en elle-même, d'accord ? Ok, Dieu donne la victoire aux Israélites à ce moment-là, contre les Madianites. Bon, c'est une bataille parmi les milliers, les millions de batailles qu'il y a pu avoir sur cette terre. Un camp a gagné, l'autre a perdu. Bon, l'important n'est pas là. L'important, c'est la foi. L'important, c'est que les hommes, le peuple élu de Dieu, comprennent que la victoire est en Dieu. C'est ça qui est important. Et Dieu va utiliser, utiliser leur faiblesse, il va construire leur faiblesse. D'accord ? Il démarre à 30 000, donc à 1 contre 5. Bon. Mais il va augmenter finalement cette faiblesse jusqu'à la rendre complètement incroyable en fait. D'accord ? À 1 contre 500, aucun soldat peut espérer gagner quoi que ce soit avec une telle disproportion. Et Dieu, dans ce texte, nous dit, Dieu dit, voilà, je vais la force d'Israël est encore trop importante. Et ils vont penser que c'est par leur propre force qu'ils y arrivent. Alors je vais les amener à un point où ils ne pourront que reconnaître que c'est moi, l'Éternel, qui leur donne la victoire. Et ça, c'est important, j'ai envie de dire, c'est important pour nous, même aujourd'hui. Vous voyez que ce matin, on n'est pas super nombreux, mais la victoire n'est pas dans le nombre. La victoire, elle est en Dieu. Et quand je suis faible, et ça c'est Paul qui le dit, quand je suis faible, tu es fort. C'est vrai aussi pour nous. Quand nous sommes faibles, Dieu est fort. Il est fort parce que c'est pas dans le nombre que se trouve la force. La force, elle est en Dieu. Et c'est lui qui donne la victoire. Et on le voit dans cette bataille. Avant que la bataille commence, Dieu avait déjà donné la victoire. Il l'avait déjà donnée dans le cœur des ennemis, en fait. Il avait déjà tout fait pour que le simple fait de leur faire peur dans la nuit suffise à les mettre en déroute. Donc voilà ce qu'on peut retirer de ce premier chapitre. Et je continue, je vais essayer de ne pas être trop long. Donc on va continuer avec le chapitre 8. Et donc on a vu la victoire, et là maintenant on va voir en fait les suites de cette victoire. Donc je lis au chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Pourquoi as-tu agi de cette manière envers nous ? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés en renfort quand tu es parti combattre les Madianites ?» Et ils le prirent violemment à partie. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous ? Le grappillage d'Éphraïm a été plus productif que toute la vendange de la famille d'Abiézer. » Abiézer, c'est sa famille à lui. « Après tout, c'est à vous que Dieu a livré les chefs madianites, Horeb et Zeb. Qu'ai-je pu faire en comparaison avec vous ?» Et ces paroles apaisèrent leur colère. Lorsqu'il atteignit le Jourdain, Gédéon le traversa avec les 300 hommes qui l'accompagnaient. Malgré leur fatigue, il continua à poursuivre l'ennemi. Arrivé à la ville de Soukhot, Gédéon dit à ses habitants, « Donnez, je vous prie, des miches de pain aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont épuisés, et je suis à la poursuite de deux rois madianites, Zeba et Tsamoua. » Mais les chefs de Soukhot lui répondirent, « Tiens-tu déjà Zebab et Tsamoua en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ta troupe ?»« Eh bien, riposta Gédéon, quand l'Éternel aura livré Zeba et Tsamoua dans mon pouvoir, je vous fouetterai avec les chardons et les épines du désert. » Et là, Gédéon se rendit à Pénuel, où il adressa la même demande aux habitants. Il reçut la même réponse qu'à Soukhot et déclara aux gens de Pénuel, « Quand je repasserai, une fois le combat terminé, je démolirai cette tour. » Or, Zebab et Tsamoua étaient retranchés à Kakor avec leurs troupes qui contenaient 15 000 hommes. C'était tout ce qui restait de la grande armée des Bédouins d'Orient. En effet, 120 000 soldats étaient déjà tombés. Gédéon prit la route des caravanes de nomades à l'est de Noba et de Yegoba et attaqua le camp ennemi qui se croyait en sécurité. Les deux rois de Madian, Zebab et Tsamoua, s'enfuirent. Gédéon les poursuivit, il les captura tous les deux et sema la panique dans toute leur armée. Lorsque la guerre fut terminée, Gédéon, fils de Joas, retourna sur la montée de Hérès. Il mit la main sur un jeune homme de Soukhot qu'il questionna et qui lui inscrivit les noms des 70 chefs et responsables de Soukhot. Gédéon alla trouver les habitants de Soukhot et leur dit « Rappelez-vous comment vous m'avez insulté en disant « Tiens-tu déjà Zebab et Tsamoua en ton pouvoir pour que nous soyons obligés de donner du pain à tes gens fatigués ?» Eh bien les voilà. Alors il fit saisir les responsables de la ville et les fit fouetter à coups de chardons et d'épines du désert. Il démolit aussi la tour de Pénuel et massacra les hommes de la localité. Puis il demanda à Zebab et Tsamoua, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?»« Ils te ressemblaient, répondirent-ils, ils avaient le port du fils d'un roi. »« C'étaient mes frères, les fils de ma propre mère, » cria Gédéon. « Par le Dieu vivant, je le jure, si vous les aviez épargnés, je ne vous tuerai pas non plus. » Puis il ordonna à son fils aîné, Yéter, « Viens, tue-les. » Mais le jeune garçon ne dégaina pas son épée, car il était encore un jeune garçon et il avait peur. Zebab et Tsamoua dirent alors à Gédéon, « Frappe donc toi-même, car c'est la tâche d'un homme fort. » Alors Gédéon tua Zebab et Tsamoua, et il prit les ornements en forme de croissant qui pendaient au cou de leur chameau. Après cela, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « règne sur nous, puisque tu nous as délivrés des Madianites. Ton fils, puis ton petit-fils te succéderont. » Gédéon leur répondit, « Non, je ne régnerai pas sur vous, et mon fils ne vous gouvernera pas non plus, car c'est l'Éternel qui règnera sur vous. » Puis il ajouta, « J'aurai cependant une demande à vous faire. Donnez-moi chacun une boucle d'oreille en or prise sur votre butin. » Les ennemis, en effet, portaient des boucles d'oreilles en or, car ils étaient ismaélites. « Très volontiers, lui répondirent-ils. Ils étendirent un manteau par terre, et chacun y jeta un anneau prélevé sur son butin. Les anneaux d'or que Gédéon avait demandés pesaient près de 20 kg en tout. Il reçut également les croissants d'or, les pendants d'oreilles, les manteaux de pourpre que portaient les rois madianites, ainsi que les colliers qui ornaient le cou de leurs chameaux. Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il installa dans son village à Ophra. Tout Israël s'y prostitua en y rendant un culte, de sorte que cette statue devint un piège pour Gédéon et pour sa famille. Ainsi, les Madianites furent affaiblis par les Israélites et ils ne se relevèrent pas de leur défaite. Ainsi, longtemps, aussi longtemps que Gédéon vécut, c'est-à-dire pendant encore 40 ans, le pays jouit de la paix. Yerubbaal, fils de Joas, s'en retourna dans sa maison et y demeura. Gédéon eut 70 fils, car il avait de nombreuses femmes. Une épouse de second rang, habitant à Sichem, lui donna aussi un fils qu'il appela Abimélec. Après une heureuse vieillesse, Gédéon, fils de Joas, mourut, et il fut enterré dans le tombeau de son père Joas, à Ophra, de la famille d'Abiézer. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils adoptèrent Baal-Bérit comme dieu. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de tous leurs ennemis, et de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne témoignèrent aucune gratitude à la famille de Jérubbaal, Gédéon, pour tout le bien que celui-ci avait fait à Israël. La suite de cette histoire, bon, elle est, comme je vous l'ai dit, hein, il y a une violence importante, hein, dans ces histoires. Mais on voit encore Gédéon qui va réagir aux événements qui se présentent à lui. Et on le voit réagir de deux façons différentes. Donc il y a deux épisodes ici. Donc dans la poursuite, d'accord. Au début de la poursuite, il est confronté à une contestation de la part d'Éphraïm. Donc Éphraïm, qui est une des tribus puissantes, hein, d'Israël, il est confronté à une contestation. Les Éphraïminites ne sont pas contents. Et Gédéon va réagir d'une certaine façon. Un peu plus tard, ils vont traverser le Jourdain, donc aller à l'est du Jourdain. Et là, il va rencontrer donc deux villes, Soukot et Penuel, donc qui, a priori, sont des villes occupées par des gens de la tribu de Ruben, qui sont donc à l'est du Jourdain, donc à l'extérieur de la terre d'Israël. Et il va réagir là aussi d'une autre façon à l'insulte qui lui est faite quand ces deux villes refusent de l'aider. Et puis après, il va y avoir donc cet épisode où les Israélites vont lui proposer de devenir roi. Et ensuite, la dernière partie, c'est quand il va donc récupérer l'or, une partie du butin, et ensuite donc sa vie qui va devenir prospère et le nombre de fils importants qu'il va avoir. Dans ces quatre parties de la vie de Gédéon, je voudrais remarquer deux façons de réagir. La première, c'est que Gédéon va être capable d'être... Alors, je vais le dire comme ça, il va être capable d'être fort pour les sujets importants. Il va être fort parce que au moment où les soldats d'Éphraïm lui reproche de ne pas les avoir impliqués plus tôt dans la bataille. Donc c'est une question de prestige. Hein. Ils ne sont pas contents parce qu'eux ont été appelés qu'à la fin, que quand il fallait en fait faire barrage pour empêcher les Madianites de s'enfuir. Donc ils n'ont pas participé, on va dire, au combat prestigieux. Donc ils reprochent à Gédéon de les avoir mis de côté. On sait que entre les tribus d'Israël, en particulier à ce moment-là, les tensions pouvaient être fortes. Et il y a eu des moments où il y a eu des guerres internes. Et c'était clairement un danger majeur pour la survie du peuple. Hein. S'ils commencent à se faire la guerre entre eux, c'était la porte ouverte voilà, à la disparition. Et Éphraïm était une tribu qui était puissante et importante. Et Gédéon, à ce moment-là, eh bien, va accepter de s'humilier. Il dit, voilà, ce que vous avez réussi à accomplir, vous, gens d'Éphraïm, est bien supérieur à ce que ma famille et moi-même avons pu accomplir, puisque c'est à vous que revient la gloire d'avoir capturé et tué les deux chefs madianites, Horeb et Zeb. Donc il va accepter finalement de se mettre en retrait, de s'humilier, pour préserver la paix d'Israël, pour empêcher qu'une guerre éclate, ou un conflit éclate entre des tribus puissantes d'Israël. Donc, il met en fait le bien du peuple avant le sien et avant sa propre gloire. Et en ça, il est fort. C'est une force de caractère. Et j'ai envie de dire qu'il l'appuie dans sa foi, dans sa relation à Dieu. C'est sa relation à Dieu qui lui permet de refuser finalement, d'accepter finalement l'humiliation pour préserver la paix. Il est fort aussi au moment où le peuple lui propose la royauté, hein, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Hein, tu seras notre chef et ton fils après toi et tes descendants seront nos chefs. Ça, c'est un roi. D'accord ? Il lui propose la royauté et Gédéon va répondre d'une façon, j'ai envie de dire, enfin, incroyable. Voilà, on lui propose le pouvoir et il va dire non, je refuse ce pouvoir. Parce que c'est l'Éternel qui doit être votre chef. La royauté doit être à lui. Hein. Et on sait que les prophètes interprètent hein, la demande d'avoir un roi hein, qui est faite au moment où Saül devient roi. Hein, comme un rejet de Dieu de la part d'Israël. Parce qu'ils veulent être comme les peuples autour d'eux. Ils veulent avoir un chef. Et c'est pas comme ça que Dieu voulait agir avec son peuple. Il voulait que le peuple lui fasse confiance directement. Donc cette demande d'avoir un chef, c'est vrai, c'est un manque de confiance en Dieu. Et Gédéon voit ça et il dit non, c'est l'Éternel qui sera votre chef, ni moi ni mes descendants. Donc là encore, une force de caractère qui est puisée dans sa relation à Dieu, sa relation de confiance et sa foi. Donc cette force, dans ces grands, j'ai envie de dire, ces grandes décisions dans la marche du peuple, hein, pas de conflit interne, et Dieu qui reste le chef et pas un roi. Et pourtant, on voit aussi que Gédéon va être faible, dans des plus petites choses. Dans des plus petites choses. Il se retrouve donc confronté à deux villes, à l'est du Jourdain. Et là, il va manifester il va se sentir insulté par le fait que ces villes n'aient pas accepté de le soutenir dans le combat. Et il va avoir une réaction qui va être très violente. On voit que ces deux villes, alors ces histoires de chardons, de fouetter avec des chardons et des épines du désert, bon, j'ai lu des descriptions de ce à quoi ça représentait. En fait, non, c'était pas tranquille. Hein. C'était un truc où les gens pouvaient en mourir. Hein. Il s'agissait, bon, bref, je rentre pas forcément dans les détails, mais bon, c'était assez gore. Et au bout du compte, donc les chefs vont subir une torture. Qui menacent leur vie. Et finalement, pour Père Noël, il est dit qu'il massacre carrément les habitants. Donc, évidemment, ce sont des petites villes qui sont à l'est du Jourdain. On sait que le peuple d'Israël ne va pas réussir à s'implanter hein, à cet endroit-là. Ils vont être balayés. Alors, évidemment, ces villes, elles étaient en première ligne des attaques ennemies. Ils étaient plongés au milieu dans un endroit où la relation avec les peuples autour était beaucoup plus en leur défaveur. Donc leur réaction de dire qu'ils ne vont pas soutenir avant d'être sûrs de la victoire de leur camp, bon, c'est une réaction qui manque de solidarité, mais qui est en même temps prudente. Bon, Gédéon ne va pas prendre ça en compte du tout, et il va décider de détruire finalement, parce que, évidemment, je n'ai pas précisé, mais ces deux villes-là sont des villes, c'est des villes d'Israélites, hein, c'est des villes qui font partie du peuple de Dieu. Et Gédéon va refuser de manifester de la... de la pitié, de la patience, de la bienveillance avec ces villes-là, et il va les détruire. Sa faiblesse se manifeste aussi avec cette histoire de l'or. Donc il refuse la royauté, mais il dit, bon, je prends pas la royauté, mais je prends quand même de l'or. Cet or, il nous est dit qu'au bout du compte, il va servir à fabriquer une statue, alors donc une statue auprès de laquelle, finalement, les Israélites vont se prostituer. Alors le texte parle d'une statue ou d'un éphod, c'est pas très... au bout du compte, c'est pas forcément quelque chose qui est... une idolâtrie qui est frontalement opposé à l'Éternel. Souvent, c'est plutôt un autel qu'on va consacrer à Dieu, mais qui finalement va amener le peuple à se détourner de Dieu, parce que c'est une représentation qui est faite à un endroit et que la marche, on va dire, normale du peuple, en fait, c'est que dès que quelque chose devient visible, quand on met quelque chose qui représente Dieu, eh bien, ce qui aurait pu être quelque chose de bon se transforme en idolâtrie. Et donc, ce prestige que Gédéon récupère cet or récupéré, eh bien, ce prestige va se transformer en une chute pour Gédéon, pour sa famille et pour le peuple autour de lui. Le texte continue en nous disant que Gédéon va devenir très prospère. D'accord ? Beaucoup de femmes, beaucoup de fils. Bon, ça nous rappelle Salomon, par exemple, hein. Ça nous rappelle, voilà, la gloire et la richesse. Et dans ses fils, il nous est dit, voilà, Gédéon aura un fils qui va s'appeler Abimélech. Abimélech, ça veut dire « mon père est roi ».« Mon père est roi ». Alors, donc, on voit que Gédéon va acquérir du prestige, acquérir des richesses devant, voilà, parmi son peuple. Et ces richesses, et finalement, dans le chapitre suivant, le chapitre 9, ça parle de l'histoire de cet Abimélec et comment il va chercher à devenir roi, lui, d'accord, à la place de son père. Son nom, c'est « mon père est roi ». Il va chercher à être roi et il va y avoir un grand désordre à cause de cet enfant-là. Donc, c'était comparé à la royauté qui lui était proposée, c'était quelque chose de petit. Avoir un peu d'or, avoir de la richesse, être bien, avoir du prestige et de la au milieu du peuple. Eh bien, c'était une petite chose. Et Gédéon finalement a été faible dans cette démarche-là, parce qu'il a recherché, il a recherché de la gloire, il a recherché de la richesse au milieu de son peuple. Et ce qui est important, c'est aussi de voir que finalement, dans cette faiblesse, ce n'est pas Gédéon qui en a porté les conséquences négatives. Ce n'est pas Gédéon, le texte nous dit, Gédéon a vécu une vieillesse heureuse. Il a été entouré, voilà, de ses enfants, de son confort. Il a eu une vieillesse heureuse, il est mort. Et finalement, c'est après que les choses se gâtent, que l'idolâtrie reprend, que la division amenée par justement par ses fils qui vont avoir tout le prestige et qui vont il va y avoir des luttes de pouvoir finalement à cause de ça, et donc de la division et des combats au sein d'Israël. C'est dans ses faiblesses et La même chose pour les villes qui sont à l'est du Jourdain. Finalement, ces villes-là, le peuple d'Israël ne pourra pas s'implanter à cet endroit-là, aussi par manque de solidarité, simplement, parce qu'ils étaient de l'autre côté. De l'autre côté. Et quand il y avait une solidarité à l'intérieur des frontières d'Israël pour combattre contre les ennemis, eh bien, ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain, finalement, n'ont pas bénéficié de cette solidarité. Et c'est ce qu'on voit aussi dans cette histoire avec Gédéon. Gédéon est solidaire avec le peuple, avec Éphraïm et les tribus à l'intérieur, et finalement avec ceux qui sont à l'extérieur, eh bien elles sont punies bien plus sévèrement. Donc les conséquences de la faiblesse de Gédéon finalement va porter sur les autres et pas sur lui. Donc je vais m'arrêter là, mais juste donc pour montrer combien cette histoire elle est. Je trouve qu'elle nous concerne, vraiment, parce que là, on voit combien la foi de Gédéon va servir à glorifier Dieu, à ramener le peuple de Dieu vers lui, à renouveler sa foi. En fait, Gédéon est capable, avec la foi qu'il a, que Dieu lui a donnée, la foi qu'il a fait grandir dans sa relation à Dieu, il a été capable de la transmettre et de renouveler son peuple. Sa foi lui a permis de faire les bons choix pour les choses importantes, pour la paix, pour la souveraineté de Dieu sur Israël. Il a fait les bons choix. Et malgré tout, ses faiblesses, pour les petites choses, ses faiblesses dans les choses qui étaient moins visiblement importantes, eh bien, il a été aussi faible dans ces petites choses. Et pour moi, c'est quelque chose qui me parle, parce que je pense qu'on a, quand on a décidé de suivre le Seigneur, chacun d'entre nous, on a fait un choix de vie. On a accepté le Seigneur dans notre vie et on a dit, ok, bon, voilà, moi, ma vie, je l'oriente vers Dieu. Et après, il y a les petites choses. Et dans les petites choses, et je le dis pour moi, parce que c'est ce que je vois dans ma vie, dans les petites choses, je peux être faible. Parce que je me dis, oh, c'est moins grave. C'est pas... Et pourtant, eh bien, dans ces petites choses, dans cette faiblesse sur les petites choses, eh bien, elles ont aussi des conséquences. Elles ont aussi des conséquences. Et ce Gédéon... Voilà, je trouve que, ouais, par certains côtés, eh bien, il me ressemble, il nous ressemble. Et c'est un appel, je trouve, à marcher avec Dieu dans les grandes choses et aussi dans les petites. Que le Seigneur nous bénisse. Et je vais prier, si vous voulez bien. Seigneur, tu nous donnes des exemples d'hommes qui t'ont suivi, d'hommes pour lesquels tu as transformé leur vie, des hommes dont tu t'es servi pour apporter la foi autour d'eux, pour être des exemples pour leurs frères et sœurs, Seigneur. Et nous voulons marcher dans ce chemin, Seigneur. Nous voulons être des modèles, Seigneur. Nous voulons savoir aussi prendre des risques avec toi, mettre nos existences entre tes mains, Seigneur. Et merci pour Gédéon, merci pour sa foi, merci pour son engagement à te suivre. Et Seigneur, voilà, aide-nous à marcher de cette façon-là. Seigneur, nous voyons aussi ses forces et ses faiblesses, Seigneur, et nous les retrouvons aussi chez nous. Seigneur, nous avons besoin que tu nous... Que tu nous gardes, que tu nous encourages, que tu nous montres aussi quand nous faiblissons, quand nous acceptons des compromis parfois sur des choses qui semblent peut-être sans importance et qui finalement vont apporter de la souffrance parfois chez nous et parfois aussi chez ceux qui nous entourent et qui dépendent de nous, Seigneur. Renouvelle notre foi, renouvelle notre esprit. Aide-nous à voir, c'est vrai, ce qui nous entoure avec tes yeux. Aide-nous à être des disciples de Christ, Seigneur. Aide-nous à marcher de la même façon qu'il a marché, sans jamais faiblir. Que ta gloire, Seigneur, puisse se manifester dans nos vies. Je t'ai prié dans le nom de Christ. Amen.